Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, on est accompagné de Thierry Paquet et pas de Jonathan parmi nous parce qu'on voulait faire un équilibre, un libéral, un péquiste, pour parler de Dominique Anglade, son accession à la chefferie et évidemment, pour faire suite à l'article de Jordan La Rochelle sur le site, qu'est-ce que Mme Anglade doit faire si elle vise le pouvoir, quels sont ses défis et quelles sont ses ambitions. Donc Thierry, je vais te laisser prendre la parole, parce que quand même, petite victoire de ton côté, je sais que tu étais un partisan de Mme Anglade.
C'est sûr que nous, on a eu des petites discussions en privé, toi et moi, par rapport de ça, et oui, effectivement, j'ai eu le plaisir de pas souvent côtoyer Mme Anglade, étant donné que j'étais avec les jeunes libéraux. Maintenant, dans à peu près un mois et demi, je serai plus un jeune, selon le parti, donc ça sera plus, ça sera plus en effet. Ça fait mal, hein? 26 ans. Grosso modo, veux pas, ce qui était intéressant aussi avec Mme Anglade, puis au début, j'avais un doute là-dessus, puis ça peut paraître niaiseux, mais elle arrivait toujours, je trouve, dans des moments, par exemple, dans nos ACJ, dans nos assemblées de la Commission jeunesse, à des moments où est-ce qu'on était plus détendu, plus relax, fait qu'elle venait nous chercher comme pas dans un contexte qui était strict, pas dans un contexte qui était très, comment je te dirais, très ferme. Elle venait nous chercher quand on était plus détendu pour avoir des discussions plus un à un, et généralement plus cœur à cœur aussi, je te dirais. C'est sûr que...
Comme, tu l'as peut-être pas rencontré, mais un peu comme Sylvain Gaudreau, préfère y aller avec un petit groupe plutôt que de parler à une salle, on dirait.
Puis je trouve ça intéressant justement parce que c'est là que souvent le monde a tendance à se vider le cœur. Je trouve que c'est un bon exemple pour un politicien, puisque les politiciens doivent être proches des gens.
Mm-hmm.
Puis avant même qu'entre la question, parce que moi, je veux pas, je l'ai connu dans le temps aussi où est-ce que le Parti libéral était encore au pouvoir. Donc, il n'y avait pas de question de course à la chefferie en soi. Puis en plus, avec une victoire majoritaire, c'était vraiment pas dans l'air, là, en fait. Je l'ai connu, c'est ça, avec un instant où est-ce que pour elle, c'était juste normal d'être proche du monde. Et même qu'elle est déjà venue me chercher pour aller chanter du karaoké avec elle, écoute, c'était hilarant. Mais il y a quelque chose qui était important pour moi dans cette course à la chefferie-là, c'est qu'il fallait que le prochain chef ou la prochaine chef du parti comprenne que tu dois être proche de ta base militante. Puis c'est tellement galvaudé comme expression, être proche de ta base militante, que souvent le monde dit, ah ben tu sais, je vais aller serrer une coupe de main. Non, va chercher
c'est
le monde, va faire exprimer ce qu'ils ont dans le fond de leur cœur. C'est ça que Dominique Anglade a fait avec, entre autres, les jeunes. C'est ça que peut-être qu'il manquait aussi avec M. Cusson.
Ben, M. Cusson, d'un autre côté, on va dire, soyons honnêtes, là, il n'était pas très présent, tout simplement, dans en tout cas, d'une perspective externe. Nous, on priait pour que Cusson gagne parce qu'il avait tellement l'air mauvais. Ça n'avait pas de bon sens. Après, peut-être que c'est l'apparence que les médias lui donnaient qui faisait du personnage un politicien qui semblait vraiment pas à sa place, là. Parce que comme maire de Drummondville, il était quand même relativement apprécié.
Oui, effectivement. Puis tu sais, je pense pas que ça aurait été un incompétent loin de là. Je pense par exemple que veux pas, le parti avait besoin de quelqu'un qui était capable de mettre les mots à la bonne place, d'être plus justement terre à terre et d'être cœur à cœur avec leur monde. Monsieur Cusson a l'air de quelqu'un qui était quand même assez, comment je dirais, stable dans ses affaires, mais justement, plus côté gestion. Et c'est peut-être ce qui a fait mal un peu au Parti libéral, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient aptes à faire de la gestion, qui avaient une mentalité de gestion, qui manquait un peu ce côté-là de contact humain. Fait qu'avec M. Cusson, j'ai l'impression, ça c'est un avis de jeune, fait que c'est un avis de jeune qui dit contact jeune, j'ai l'impression qu'il y aurait eu un petit peu ce manque-là. Tandis qu'avec Dominique Anglade, il y a énormément de franchise. C'est quelque chose que je pense qui va être hyper important dans la reconstruction du parti.
Oui, ben écoute, je te dirais que juste, pour encore une fois, d'un point de vue externe, tu sais, quand on discute de Mme Anglade dans les instances péquistes ou avec des solidaires ou avec des caquistes, il y a un sentiment de respect. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord pantoute. Évidemment, tu sais, je voterai pas pour Mme Anglade parce que je suis quelqu'un qui est un militant, mais je veux dire, une personne ordinaire qui se soucie très peu des démarcations partisanes et idéologiques, au final, ça revient avec le qui a le plus de crédibilité, qui réussit à aller te chercher le plus, qui peut t'offrir le plus. Et de ce sens-là, nous, on est comme... Très clairement, c'est pas la même... C'est pas le même style de gestion, c'est pas le même style de leadership qu'on a eu avec les années Couillard et les années Charest. On sent qu'il y a une démarcation. On sent qu'il y a peut-être même plus de place à la collaboration sur certains dossiers. Surtout sur l'après-crise, on sent qu'il y a une ouverture. Parce que là, Madame Anglade a publié une lettre ouverte pour une relance durable à rebâtir en mieux. C'est une très bonne lettre ouverte qu'elle a acceptée gracieusement qu'on ait sur notre site web. Qui a d'ailleurs motivé la publication de l'article de Jordan qui avait bien aimé la lettre ouverte de Madame Anglade. Et on sent dans cet article-là que on quitte la logique de gestion, on s'occupe juste des vraies affaires, comme disait M. Couillard, avec l'économie et tout le reste un petit peu en seconde main. Et on sent qu'il y a une place qui est redonnée peut-être plus à la population et à l'être humain derrière l'économie. Après, ça va rester à prouver, évidemment, mais on sent qu'il y a une autre volonté que ce qui était précédent.
Mais ben, pas, puis c'est une question de démocratie aussi là-dedans. T'as pas le choix d'entendre ta population, puis si la population, pour elle, l'économie, c'est plus le sujet numéro un, va falloir que tu donnes de l'attention à ce qui sont leurs sujets numéro un. Et ça reste que l'économie, c'est le moteur de l'entièreté de l'État. Donc, ça reste très important d'avoir un gouvernement qui est compétent à ce sujet-là. Toutefois, ça ne veut plus être le seul sujet, et ça, Dominique Anglade l'a très bien compris. C'est une femme dont on connaît les compétences, qu'on est certain qu'on va quand même avoir une bonne emprise économique. C'est une femme qui a des bons contacts à ce sujet-là. On n'a pas peur pour elle.
L'équipe libérale est quand même, avec M. Letao, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est un excellent économiste. Je veux dire, s'il voulait aller au privé demain matin, il y a une dizaine de compagnies qui mettront un pont d'or pour aller le chercher. Je suis d'ailleurs impressionné du fait qu'il soit resté à l'Assemblée nationale malgré la défaite.
Ben, c'est un homme qui a des valeurs quand même, M. Letao, puis moi, j'ai eu le grand plaisir de le briefer en campagne, puis honnêtement, c'est un homme qui est là justement par conviction, puis ça paraît.
Mais ça a l'air d'être toute une tête, là. C'est pas le genre de personne que j'aimerais avoir un débat avec, parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui connaît ses dossiers pas mal.
Et c'est quelqu'un qui aime les défis, donc à ce moment-là, c'est sûr que tu vas chercher quelqu'un qui connaît ses choses et qui aime les défis. Tu sais... C'est quelqu'un qui va...
Si t'as le moindrement les valeurs, puis en plus t'aimes les défis, en économie au Québec, t'en as pour ton argent.
Oui. C'est le cas de le dire. Félicitations pour le jeu de mots accidentel. Retour sur Dominique Anglade, mais c'est ça, là. Honnêtement, oui, je suis satisfait. Elle va avoir toutes que des défis devant elle, par exemple. Jordan avait tellement raison en parlant du fait que, ben, veut pas, il y a des bavures qu'elle va devoir corriger dans l'avenir. Le Parti libéral n'a pas la meilleure réputation en ce moment, on se mentira pas. Toutefois, une chose que j'apprécie beaucoup avec Dominique Anglade, tu l'as dit, c'est son aspect coopératif. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très commun chez les femmes en politique. Un bon exemple de votre côté, c'est Madame Yvon.
Oui, avec les tribunaux spéciaux pour les victimes d'agressions sexuelles, je pense.
Oui, ben, en général,
le nom m'échappe au complet.
Un bel aspect collaboratif. Puis c'est quelque chose que j'espère qu'on va continuer à avoir aussi avec Mme Anglade. C'est tellement important parce qu'au final, quand tu veux représenter tous les Québécois, il faut que tu entendes tous les Québécois. Donc, il faut que tu jases avec toutes les parties parce que c'est les parties qui parlent pour les autres tranches de la population. Fait que ça, là, puis c'est un gros défi parce que, veux pas, dans le contexte médiatique, l'adversité est tellement amplifiée. Le monde oublie que les projets de loi se votent généralement comme à unanimité, puis qu'il n'y a pas toujours des grosses... il y a quand même des débats, mais il n'y a pas de grosses chicanes sur tout. Sauf que quand tu regardes dans les médias, on dirait qu'on se chicane sur tout.
Fait que Dominique Anglade, il y a des débats souvent pour des amendements sur le projet de loi, mais en règle générale, ça passe assez bien.
Exact. Fait qu'il va falloir que Dominique Anglade trouve un moyen de montrer qu'il est capable de parler à tout le monde, puis d'aller chercher l'idéologie de chaque Québécois pour faire un tout avec ça. Et ça, en collaborant avec les autres partis, puis ça, c'est pas un petit défi, mais c'est aussi ce qui va lui permettre de franchir la barrière de l'humilité, quelque chose que le monde reprochait beaucoup à l'ancien gouvernement. Il disait justement que le PLQ était pas assez humble. Mais cette humilité-là, ben, il va falloir la démontrer justement dans un esprit de collaborativité, tout en quand même se mettant dans une position où est-ce qu'elle démontre que c'est elle qui lead la balle puis qui a le contrôle de ses affaires.
Est-ce que tu étais d'accord avec l'analyse un petit peu de Jordan sur le fait que c'était pas le meilleur moment peut-être pour elle de se présenter.
Ah,
que le fait qu'il y avait pas beaucoup de candidats était peut-être un indicatif que c'était un peu un siège éjectable.
Mais c'est quoi?
On a un peu cette situation-là au PQ, parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est un siège de transition ou est-ce que c'est le siège pour de bon? Mais on a 6 candidats qui le veulent, fait qu'on a tendance à se dire que c'est intéressant pareil, mais vous avez vraiment pas eu de course. Ça a été même pas eu de temps pour les débats, mais ça, c'est à cause de la pandémie. Mais
ouais.
Il y a comme pas eu de débat d'idées qui s'est fait. Le méchant est comme pas sorti, on dirait, dans cette course-là.
Puis, sans joke, moi, honnêtement, ce que j'aimerais avoir, puis dès que j'ai l'occasion de le proposer, je le fais, là, j'aimerais qu'il y ait quand même un débat ouvert. Fait qu'on n'a pas eu de débat électoral, fine. Est-ce qu'on pourrait sortir quand même Dominique avec Gaétan Barrette, avec André Fortin, avec, écoute, nomme-les toutes, là, Madame Melançon aussi, ça serait super bon pour aller chercher Chico. Ramène tout ce monde-là, là, va te chercher, mettons, 6 personnes de tête, là, puis fais un gros débat, puis publicise le débat. Moi, personnellement, j'aimerais tellement voir ça. Puis c'est sûr que le timing est bizarre un peu parce que Madame Anglade a déjà été élue, mais ça lui permettrait d'aller chercher aussi de mettre à jour, justement, c'est quoi l'idéologie des différentes personnes dans le parti, de le montrer un peu au Québec, de montrer, elle, qu'est-ce qu'elle est prête à faire avec ces idéologies-là, puis ça va donner tellement une meilleure image, une meilleure expression de qu'est-ce que le PLQ veut faire en ce moment. Moi, je trouverais, ça, honnêtement, que ça serait une super belle activité. C'est sûr que
là aussi... Ça serait intéressant. Par contre, j'ai l'impression que ça accorde pas vraiment avec ça accorde pas vraiment avec la perception qu'on a du Parti libéral de l'extérieur, parce que c'est tout se fait toujours à l'interne, ça sort jamais vraiment dans les médias, t'sais, c'est un peu étanche à ça. Tandis qu'au PQ, nous autres, ça sort tout dans les médias, là, on n'est pas étanche pas tout. Là.
Mais c'est que je pense que c'est la meilleure occasion que, admettons, OK, check bien ça. Puis d'habitude, un chef de parti qui perd, part. On s'entend, là. Mm-hmm. Mais Dominique Anglade, je pense que ce serait sa meilleure occasion de, même s'il perdrait la prochaine élection, si elle fait remonter le parti, qu'elle garde son siège de chef, parce que si elle est capable de montrer qu'elle a causé un changement dans le parti et qu'en plus, c'est en train de ramener le parti un peu plus en haut, ce serait son occasion de dire, ben écoutez, on continue dans cette voie-là, on va changer l'opinion publique sur le Parti libéral, on va avoir changé le Parti libéral de l'intérieur, on va avoir fait quelque chose de mieux, puis on va mieux représenter la population. Je pense que ce serait son occasion idéale, justement, pour dire on va rester plus stable. Parce que si on a un autre changement à la prochaine élection, on repart par en arrière encore une fois.
C'est ça, est-ce que le PLQ peut vraiment se le permettre? Une autre course à la chefferie? Il faudrait vraiment que les résultats de Mme Anglade soient catastrophiques. Là. C'est-à-dire, là, en ce moment, dernière fois, j'ai regardé les sondages, le PLQ, vous survivez à cause de Montréal, puis l'Outaouais. Et le vote francophone, vous êtes à peu près à 9-10%. C'est impossible de gagner des élections comme ça. Impossible.
Exact.
Et donc là, le gros défi de Mme Anglade, moi, selon moi, c'est le vote des francophones. Après, Jordan avait tendance à penser que c'était aussi un problème, mais c'était surtout côté, ça prend un nouveau débat d'idées. Parce qu'on le sent, il disait au PQ, les débats d'idées ont déjà lieu, mais vont encore plus avoir lieu que la chefferie, parce qu'à coup de 6, automatiquement, il y a des idées qui sortent qui ne seraient pas sorties autrement. La CAQ, ça jase pas mal à cause de coronavirus pis tout ça. QS, ben, c'est toujours la même affaire, ils pitchent des idées en quantité industrielle. Fait que le PLQ se retrouve un petit peu avec un déficit d'idées. Et surtout côté environnement, Jordan avait l'air à dire, il y a un retard assez sérieux là, que le PLQ doit rattraper la CAQ. Et c'est intéressant comme perspective de se dire, est-ce que le PLQ pourrait devenir le parti de l'environnement, de l'économie environnementale, c'est-à-dire la CAQ va se targuer d'être le parti de l'économie, un peu comme le PLQ faisait avant, ils vous ont un petit peu volé votre titre, mais est-ce que le PLQ peut arriver à dire, non, nous on est aussi ceux qui s'occupent de l'économie, mais en plus de ça, on a une expertise environnementale que la CAQ a clairement pas, donc on peut faire les deux, voilà notre position, votez pour nous et on va arriver avec un plan économique et environnemental qui est un petit peu plus innovant que juste investir dans les autobus.
Je te donne un flash news de l'interne.
Ouais.
Ben, ça se jasait déjà. L'économie verte, c'est un sujet qui est revenu fréquemment, en fait, dans les dernières années à l'intérieur du PLQ, puis entre autres chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, ça a beaucoup jasé, tu sais, de la thématique de l'économie verte. Fait que ça, c'est un challenge parce que d'un côté aussi, t'as des gens qui vont dire « Ouais, mais il devrait pas y avoir de compromis pour l'environnement. » Puis de l'autre côté, t'as le monde qui dit qu'il devrait pas y avoir de compromis pour l'économie.
C'est un, ouais, c'est ça. Vous êtes un petit peu dans une posture difficile à...
Mais historiquement, le PLQ, c'est le parti de l'économie verte en soi, parce que si on remonte, ben, le PLQ, c'est aussi le parti de l'hydro.
Oui, Robert Bourassa, c'était l'hydroélectricité.
Fait que, puis je pense que...
Il y avait le débat à l'époque, les gens le savent pas, mais il y avait le débat, puis c'est pas pour dire, là, c'était quand même deux méchantes têtes là, qui avaient ce débat-là. Robert Bourassa, d'un côté, disait « ça nous prend l'hydroélectricité ». Jacques Parizeau, qui est pas un... Écoutez, là, Jacques Parizeau, c'est pas un deux de pique, là, ceux qui le savent pas, qui disait « non, c'est le nucléaire que ça nous prend ». Écoute, dans n'importe quel autre pays, probablement que ça aurait été le nucléaire qui aurait effectivement dû être le choix, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a des rivières comme le Québec. Mais Robert Bourassa a quand même poussé pour dire qu'on allait chercher l'hydroélectricité à cause du potentiel hydroélectrique, même avec la distance et la difficulté de le faire. Un investissement qui s'est avéré être incroyablement judicieux, et surtout quand on voit que le nucléaire au Québec a jamais vraiment levé plus que ça. L'Ontario a quand même un bon bassin nucléaire, là, mais nous, on n'en a pas besoin à cause de l'hydroélectricité, justement. Donc, on s'évite ce risque-là. Et c'est intéressant de voir ensuite, Jean Charest, pour tout ce qu'on peut lui critiquer, la bourse carbone. Les normes environnementales, il y en a quand même mis quelques-unes. Philippe Couillard était plus timide, par contre, hein, environnementalement parlant.
C'est ça. Il y a eu certains bons mots, mais effectivement, c'est surprenant. Puis le monde écoute, puis même moi, je suis pas particulièrement de l'air Charest. On pourrait avoir cette discussion-là dans un autre contexte, mais ça reste que Jean Charest a fait des bons progrès environnementaux. Je sais que pour certains, ça va faire une dissonance, mais factuellement, c'est vrai.
Mm-hmm.
Puis effectivement, avec M. Couillard, ça, on n'a pas atteint nos cibles. C'est ça que je trouve dommage.
Mais c'était un petit peu ça qui avait surpris les gens. C'est si on s'attendait à une continuation de Jean Charest, on se serait attendu à ce que M. Couillard mettre vraiment des mesures et étendre la bourse carbone en face à la promotion internationale ou quelque chose, tu sais. Pas grand-chose qui a été fait de la part du gouvernement Couillard pour l'environnement, tu sais, de majeur, à ma connaissance. On pourra nous corriger si jamais on trouve quelque chose. Mais du côté de Mme Anglade, on sent qu'il y a un désir, tu sais, que quelque chose avance. Je sais pas si ça passe je sais pas par quoi ça passe. Dans sa lettre ouverte, elle parle beaucoup d'infrastructures.
Ouais.
Donc là, ça va être intéressant de voir. Quel genre d'infrastructure? Quelles villes vont être ciblées? Est-ce que ça va être encore Montréal, Québec? Ou est-ce qu'on va essayer aussi de développer des infrastructures vertes pour les régions? De décarboniser l'économie régionale. Ça, c'est plus compliqué, mais de ce que je comprenais, Mme Anglade veut donner un rôle soutenu aux régions.
Ben, elle a un bon entourage des régions, puis Jérémy Leblanc, si je me souviens bien son nom de famille, j'ai milité avec dans le temps. C'est un gars de région, justement, puis je sais qu'il est très proche de Dominique Anglade. J'ase souvent, j'ase beaucoup, puis j'ai vraiment confiance au fait qu'il soit capable de transmettre les besoins des régions, mais aussi transmettre un peu comme c'est quoi l'état des régions, fait que c'est quoi les projets qui sont possibles en région. Puis on en a beaucoup des gars de région. Tu sais, dans le temps, j'ai milité avec des anciens candidats, justement, qui venait d'un peu partout du Québec, vraiment pas juste du monde de mon coin, puis moi, je ne veux pas, je suis en banlieue, en fait, je suis dans le merveilleux comté de Chauveau, le plus beau Québec, mais
tout ça,
bien entouré. Ça va lui donner une méchante chance, fait qu'il va falloir qu'elle se fasse, premièrement, un nouveau titre, une nouvelle publicité, on va dire, sur son projet d'économie verte. Mais il va aussi falloir une autre chose, ça va lui prendre une nouvelle image du PLQ qui est moins passive et plus active. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, le Parti de l'économie ou le Parti de l'économie verte, c'est passif. Mais est-ce que, par exemple, t'es le parti de... Puis dans le temps, c'était le projet, t'es-tu le parti de l'hydroélectricité ou t'es le parti du nucléaire? C'est quoi ton prochain gros projet?
Ouais, est-ce il que pourrait essayer d'être le parti des grands projets, tu sais, là, ramener l'héritage, tu sais, je veux dire, le PLQ, autant qu'on l'aime, on l'aime pas, c'est parti avec un héritage assez impressionnant, c'est-à-dire Jean Lesage, Maître chez nous, Robert Bourassa, l'hydroélectricité, Lac-Meach, la loi 101, la loi 28, la loi 33 de Claude Castonguay. Tu sais, vous pouvez toujours ramener ça un petit peu au passé, en disant, regardez, on a déjà mené à bien les grands projets dans le passé pour le Québec, avec succès.
Oui, mais c'est
temps de reprendre un autre chantier sociétal, celui-là pour l'environnement. Faites-nous confiance, on l'a déjà fait. Vous avez une certaine crédibilité de ce côté-là.
C'est pas, c'est pas cohérent, c'est pas, t'as rien qui est concret là-dedans, parce que tu dis juste, faites-nous confiance, on va le faire. Non, c'est quoi ton prochain projet? Je veux dire,
c'est pas, même faut au le trouver, de la mairie, je peux pas mettre des mots dans la bouche à Dominique Anglade ni au PSG.
Non, je sais. Mais même à la mairie de Québec, non, mais ça, c'est à, ça va être à elle de trouver ça va être quoi son gros projet pour le parti. Mais même à la mairie de Québec, tu le sais que t'as justement un côté qui est nous autres, on est le parti du tramway, de l'autre côté qui est nous autres, on est le parti du troisième lien, on est au courant. Là.
Ah oui, la fait division est quand même assez claire.
Fait que c'est le parti de quoi, le PLQ? Puis c'est ça qu'il va falloir que Dominique Anglade trouve la réponse. Parce que dire que t'es le parti de l'économie verte, il y a du monde pour qui ça parle pas parce que le passif ne parle pas. Ça va leur prendre de l'acte.
Il faudrait, mettons. Parce que QS, c'était positionnant en disant, nous autres, on est le parti de l'environnement, mais il avait dit nationalisation des transports publics, genre les autobus interrégionaux. Et un des rares projets que j'ai vraiment. Ben, il y en a deux projets de QS que j'ai vraiment aimé, Pharma-Québec. Et l'extension du tramway, mais du métro de Montréal. Ça, c'est pas normal que depuis toutes ces années-là, la maudite ligne bleue qui a jamais été prolongée, là, elle commence à l'être, là, mais on a attendu tellement longtemps pour faire le travail nécessaire pour le métro à Montréal. On est une métropole à Montréal, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas une exagération. Il faut arrêter de se penser qu'il y a un petit village gaulois ou quelque chose. Là. C'est une grosse ville, Montréal. Peu importe le standard que tu regardes ça, c'est une grosse ville. Et c'est pas normal que pour une grosse ville, le réseau de métro soit aussi déficient. Pourquoi est-ce que la boucle de la ligne orange a jamais été faite? Pourquoi est-ce que la ligne rose a été balayée du revers de la main comme ça? T'sais, c'est pas normal. Il faut des investissements comme ça dans le métro à Montréal parce que non seulement c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon pour l'économie aussi. Fait juste penser à Montréal, pas de métro, comment est-ce que ça serait moins productif puis moins efficace aujourd'hui? Hey!
Ça serait épouvantable.
Ça serait dégueulasse, là. Faites juste penser à ça, 5 secondes. Là. Le métro, il ferme une journée, c'est l'apocalypse à Montréal. Imaginez qu'il n'y aurait jamais ce métro-là. Genre, il ferme, là, puis on ne l'a plus. Comment est-ce que les pertes économiques seraient gigantesques? Il y a des compagnies qui fermeraient.
Hey, j'étais un petit gars de Québec, puis honnêtement, j'ai déjà de la misère à naviguer dans Montréal. Là. Enlève-moi le métro, je pleure.
Non, moi, mais quand je vais à Montréal... Moi, je viens de l'Abitibi, là, c'est trop gros pour moi, là, t'es Montréal. Là, je ne vais jamais là. Mais une maudite chance qu'il y a le métro, parce que sinon, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Là. Une chance que t'sais, j'ai Google Maps, ah, prends le métro, va-t'en là. C'est beau, parfait, mais conduire en voiture, je le fais pour aller dans le coin de Montréal-Nord, voir un de mes amis. Puis déjà là, je stresse, là, je trouve qu'il y a trop de monde. Là, passer dans le coin du tunnel, puis ça, j'aime pas ça. Là. C'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que le PLQ va se placer... Tramway, métro, je sais pas moi, un monorail ou un train haute vitesse entre Montréal et Québec, fouille-moi, on pitch des affaires. Parce qu'il faut quand même que ce soit quelque chose qui rentre dans le. Qui frappe l'imaginaire collectif aussi.
Puis le pire, c'est que les gros projets infrastructuraux les plus évidents se feraient entre Québec et Montréal, mais si tu fais ça encore entre Québec et Montréal, tu vas en perdre une autre élection parce que. Tu peux pas juste te concentrer sur ces deux villes-là. Surtout le PLQ a déjà Montréal
quand même. Vous êtes déjà confiné à Montréal. T'sais, vous pourriez faire des liens à Québec avec un projet Montréal-Québec, mais est-ce que ça serait suffisant pour enfin sortir de cette espèce de... T'sais, on s'entend. Là, la perception, nous autres au PQ, du PLQ, en plus je parle en mon nom, pas en nom, au nom du parti, évidemment, c'est que vous êtes un parti montréalo-centré. T'sais, c'est-à-dire... Votre base est à Montréal, vos idées viennent de Montréal, vos politiques viennent de Montréal et ça se reflète sur vos intentions de vote. Après, vous pourrez nous revirer ça de bord et dire qu'on est un parti régional parce qu'on fait rien que gagner des sièges en région. Vous auriez peut-être pas tort. Mais ben, en même temps, c'est dur de gagner quoi que ce soit quand la CAQ balaye tout. Hein? Fait qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste. Là, mais ça reste qu'il y a une certaine démarcation parce que Montréal versus le reste du Québec, c'est clairement pas la même game. Fait que si tu confine à l'intérieur de Montréal, est-ce que tu vas être capable d'en sortir? Et ouais, si tu sors du confinement de Montréal, est-ce que tu réussis à garder Montréal comme tu le lances moi?
Puis à long terme, je pense que le rôle de Dominique Anglade là-dedans va être super important parce qu'en ce moment, on s'entend, elle représente pour certaines personnes Montréal. Sauf que si Dominique Anglade est capable d'établir son lien avec les régions puis de dire c'est pas grave si le parti est basé à Montréal, tout le monde a sa voix puis tout le monde compte égal. Mm-hmm. Ça te donne une chance à long terme, puis ça t'empêche aussi de peut-être perdre des voix à Montréal.
Ah, ça. Fait que son projet. Ça, Jordan en avait parlé justement. Mais ça, c'est sur un autre aspect, tu sais. L'identité. Ben, tu sais, je veux dire, Dominique Anglade, c'est sûr, elle s'est faite donner un coup dans les genoux avant même que sa campagne soit lancée par des imbéciles du PLQ qui avaient sorti qu'une femme noire pouvait pas être élue au Québec. Non, automatiquement, elle venait de se faire casser les jambes de là qu'elle pouvait encore moins parler du thème, déjà que c'était compliqué. Parce que là, la minute qu'elle parle de ça, elle va se faire associer à ces déclarations-là. La minute qu'elle parle de ça, elle va se faire associer à la coupure entre Montréal et son électorat anglophone et immigrant versus le vote francophone qui est à 9%. Et là, si elle prend une position plus, mettons, pro-loi 21, loi 101, protection du français, tout ça, réduction de l'immigration, peu importe, il y a plein d'avenues possibles, elle va se faire accuser de déshabiller Jacques, soit son vote anglophone, pour habiller Paul. Tandis que si elle continue dans la veine de Philippe Pouillard, qui était vraiment très multiculturaliste, c'était vraiment un... Ça ressemblait presque au modèle canadien, Philippe Pouillard, dans certains aspects, là, sur le social, là, puis à dire, tu sais, vous soufflez sur les braises de l'intolérance et tout ça. Si elle continue dans cette voie-là, ben, automatiquement, le vote francophone ne suivra pas vraiment. Puis là, on va l'accuser de travailler juste pour Montréal et pour ses comtés anglophones et de milieux immigrants. Mais là, elle est dans une posture vraiment... C'est pas évident, là. J'aimerais pas ça être à sa place. Parce qu'il faut vraiment que tu navigues une fine, fine ligne.
C'est pour ça que...
Toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire, là, mais...
Honnêtement, c'est sûr que ça, moi, je suis pas non plus dans le secret, là. Je suis pas dans ses troupes.
Non, on peut
étant donné que j'ai décidé de prendre une position plus laid-back après les élections, de regarder ça aller, de dire mon mot sans censure, généralement, ça fait du bien, honnêtement, aussi. Mais ce que je pense, c'est qu'elle va faire... va être d'avoir son contact qui va unir un peu les deux. C'est-à-dire que, généralement, dans la tête du monde, se tourner vers la population francophone, c'est se tourner exclusivement vers la population francophone. Mais je pense que c'est là notre faiblesse, c'est que si on veut vraiment être une nation unie, parce que le Québec est une nation, on s'entend là-dessus, puis je pense que ça va te faire plaisir.
Ça a été reconnu par le Canada même.
Oui, exactement. Fait que si tu veux être une nation, il faut que tu t'unisses en tant que nation. Dominique Anglade, d'après moi, va aller chercher à utiliser son identité, justement, qui elle-même est assez, comment je te dirais, elle va chercher déjà plusieurs identités en même temps. Parce que c'est une Québécoise, mais sa peau n'est définitivement pas blanche, on s'entend là-dessus, mais elle a un super bon français, mais elle est aussi basée à Montréal, si je ne me trompe pas.
Fait qu'elle doit être bilingue, effectivement.
Fait qu'elle est capable de toucher à différentes parties de la population. Puis son héritage culturel demeure que c'est pas l'héritage le plus, comment je te dirais... T'as pas une impression de puissance acquise non plus. Fait que c'est une femme qui a pas de difficulté à se mettre proche de toutes les tranches de la population. Et je pense que c'est ce qui va jouer en sa faveur. C'est ce qui va lui permettre d'établir un lien où est-ce qu'elle va aller chercher des gens, peut-être individuellement au début au sein du PLQ, puis aller faire se parler. Puis ça va être des gens de toutes sortes d'avenues de la vie, honnêtement. Je pense que ça va lui permettre de créer un peu un groupe avec lequel elle va pouvoir discuter, à faire jaser ce groupe-là entre eux, puis de là à sortir les idées qui vont lui permettre de trouver comment réunir les populations québécoises qui sont divisées en ce moment par différentes idéologies.
Ah, c'est sûr que ça peut être intéressant. Ça va être de voir, justement, c'est vraiment une ligne très fine. Très fine. Même si tu parles d'aller chercher unir des choses, il y a des positions où clairement les deux populations semblent irréconciliables. Et donc, ça va être intéressant de voir à ce moment-là. On s'entend... Quand que la loi 21, mettons que la loi 21 sera en Cour suprême et qu'elle perd, moi personnellement je pense qu'elle va perdre. J'ai certaines personnes qui pensent qu'elle peut gagner. Après, j'ai hâte, ça dépend de l'avocat qu'on a et ça dépend de l'humeur des juges aussi un peu. Là, mais si la loi 21 perd, clairement un gouvernement péquiste ou caquiste met la clause nonobstant dessus. Est-ce que Dominique Anglade va oser mettre la clause dérogatoire sur la loi 21? On sait que Robert Bourassa l'avait fait avec la loi 101, mais le contexte n'était pas tout à fait le même non plus.
Ça, d'après moi, ce ne sera pas Dominique Anglade qui va le décider. Ça va être une autre discussion qu'il va y avoir at large dans le parti, si ça doit être réinvoqué. Puis, il y a déjà eu beaucoup de discussions. On ne se cachera pas là, quand il y a eu justement le conseil général à Drummondville à la suite de la défaite. Ça fait partie du sujet, mais ça reste que c'est encore super chaud, puis c'est pas, comment je te dirais, c'est même pas encore stable comme sujet. Il n'y a pas une opinion fixe encore dans le parti à ce sujet-là. Fait que c'est juste
que. J'ai l'impression que ça va prendre des années avant que le parti puisse prendre une position là-dessus, honnêtement.
Exactement, mais je pense que c'est correct en soi parce que ça laisse les gens réfléchir à s'il y a une loi 21, dans quel état on la veut en réalité aussi. Parce que, tu sais, c'est pas noir ou blanc. Il y a des grosses discussions à avoir à ce sujet-là, puis c'est normal, ça. Tu as différentes idéologies qui vont se confronter, ça rend la discussion un petit peu fragile. C'est pas une décision qu'elle va prendre toute seule. Le gros défi, ça va être de savoir est-ce qu'elle va vouloir réouvrir ce débat-là, puis ça va juste être une question de dans quel état la société québécoise va être à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire que la dernière chose que les Québécois veulent, là, je pense que c'est des débats culturels. On est en pleine crise de la COVID.
Ouais, c'est
on
sûr, regarde, là, en ce moment, c'est pas...
On regarde nos voisins du Sud, l'état actuel des États-Unis est absolument chaotique. En ce moment, je pense qu'on est plus dans un mood de qu'est-ce qu'on peut faire pour la prospérité, puis juste comme étant en sécurité, puis on s'entend qu'on est sur une belle pyramide des priorités en ce moment, où est-ce que...
Là, ça reste pas comme ça, par contre. On peut pas, parce que déjà, puis ça je me cacherai pas, là, on va quand même, je vais quand même accuser le PLQ d'avoir retiré la sauce là-dessus pour les accommodements raisonnables, puis tout ça, là. Hey, vous avez fait bretter le dossier pendant quoi, 15 ans? À tout le temps, on va faire ça, mais finalement on le fait pas. On va checker un compromis, on n'en fait pas. Bouchard-Taylor, ouais, la recommandation est bien, mais on l'applique pas. Tu sais, je veux dire, ça a tellement été long avant que vous fassiez quelque chose avec ça. Puis même finalement, Taylor, c'est la CAQ qui a fini par le faire.
Même Taylor.
Ça aurait dû être réglé, ça fait 12 ans de ça. Là, tu sais, je veux
dire. Mm.
Quand ça a parce sorti, Bouchard-Taylor, on aurait juste dû faire de quoi là-dessus, puis ça finissait là. T'sais.
Ouais, c'est toujours ça qui est facile à dire, mais veux pas, tu sais, il y a quand même un côté d'une personne qui se dit tout le temps, crème, on fait-tu la bonne affaire, puis une fois que t'as mis une loi, ben, c'est bien maudissant de retourner là-dessus, là. Surtout une loi comme la loi 21, là.
Sauf que j'ai l'impression que, en faisant languir, tu sais, la situation, vous l'avez comme laissé mijoter, ça a fini par un petit peu déborder un petit peu, tu sais, fait que la loi 21 est peut-être plus rigide que ce qu'une loi que vous auriez pu mettre aurait été. Et elle aurait peut-être été moins contestée que ce qu'elle est en ce moment parce que ça aurait été de vous et donc les communautés culturelles et anglophones auraient peut-être moins senti ça comme un affront.
Ben c'est que c'est une loi qui aurait dû probablement être intégrée morceau par morceau, mais ça aurait aussi attiré la sauce en soi. C'est ce que la CAQ a essayé d'éviter, c'est ce qui a fait que honnêtement, ça donne des résultats assez... En tout cas, on fera un autre...
Ouais, c'est ça, c'est un autre débat, mais fallait qu'on finisse par enlever le plaster, tant qu'à moi. Ça fait tellement longtemps qu'on en parlait, qu'on étirait, puis qu'on n'en venait pas à bout de décider qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Ça prenait une décision décisive, selon moi. Après, est-ce qu'on est d'accord avec la décision en question? Je sais pas, mais les sondages donnent une grande, grande majorité en faveur de cette loi-là. Même qu'il y en a qui plusieurs... Et je sais plus si c'est la majorité, là, ça fait longtemps que j'avais pas vu le sondage, qui voulait que ça aille encore plus loin. Et ça, même dans les communautés anglophones, ça là. C'est pour une rare fois où une loi était populaire autant chez les francophones que les anglophones, j'étais quand même surpris. Mais là, moi, je vais te poser une question, la question qui tue peut-être un peu pour toi. 2022.
Les effets sonores de tout le monde en parle là, pour la
ben
question.
Ben non, je sais pas, je suis pas encore assez riche pour ça.
C'est
un jour, je vais avoir une belle table de son là, pour pouvoir mettre des petits effets sonores en l'air. Ça va être incroyable.
C'est la question qui tue, ouais, pour faire moi.
Mais écoute, 2022, ça se gagne-tu?
Oh, damn! Écoute, on est en 2020 puis on a de la misère à savoir qu'est-ce qui va se passer le mois prochain. Là. C'est un.
Les sondages en ce moment, genre, même nous autres, là, c'est ouf. C'est rough. La CAQ, elle est tout en ce moment, c'est terrible, terrible, terrible.
Fait que, mon avis?
Ouais, je 2022 qu'est-ce que tu penses?
Ne se gagne pas, mais 2022, avec les bons choix, gagnerait du terrain.
Ok, fait que toi, selon toi, le but, Madame Anglade, c'est on essaie de se rapprocher le plus possible du pouvoir, mais tu penses pas que ça se fasse. Au mieux, vous allez être capable d'aller chercher une opposition officielle d'un gouvernement minoritaire, genre.
M'a de dire que, oh ouais, c'est ce que je pense personnellement. Parce que, écoute, là, 2 ans pour changer l'avis de la population, ça a l'air gros, mais ça dépend c'est sur quoi tu essaies de changer l'avis. Puis ça reste que, en ce moment, c'est difficile en plus de faire un avis de qu'est-ce qu'on va faire comme gros projet dans l'état actuel de l'économie.
Ouais.
Fait que la conjoncture actuelle est absolument épouvantable pour faire des guesses de qu'est-ce que quel parti va essayer d'amener. Parce que, quand il va y avoir une fin à ça, puis que tu vas être capable de mettre un Carlos Letao assis sur une chaise pour te dire c'est quoi qu'il prédit pour l'économie, on va en rejaser. Puis là, ça va être plus facile de savoir.
C'est impossible, on sait même pas à quoi le déficit va ressembler cette année. C'est...
Mais c'est ça. Fait que tant que c'est pas fini, on n'en a aucune idée, d'après moi, d'aucun parti. Là. Personne ne peut répondre à cette question-là de c'est quoi le prochain projet, parce qu'on ne sait même pas ça va être quoi l'état du Québec la semaine prochaine. T'sais.
Non, c'est ça. En ce moment, c'est une situation qui est pénible pour tout le monde. Mais c'est surtout que vous autres, en plus, il y a l'héritage Couillard fait mal. T'sais, les gens, je suis pas mal sûr que tu fais un sondage d'opinion. Mais premier ministre des dernières années, Couillard, il doit être dans les plus impopulaires. Il a mangé une méchante de Marco dans les élections.
Puis je trouve ça dommage parce que.
Certains de ces ministres comme Gaétan Barrette s'aident pas non plus avec leurs tweets. Là.
Personnellement, tu sais, Philippe Couillard, il est trop détesté pour ce qu'il a fait, à mon avis, parce que je pense que là où est-ce qu'il a perdu le plus de points avec la population, c'est à comment il s'exprimait et non à qu'est-ce qu'il a
sonnait,
fait.
Il sonnait vraiment hautain, hein? Surtout dans les débats, là, moi, c'était la perception que j'avais, c'est qu'il sonnait très hautain.
Ben, ça dépend, parce qu'en même temps, il sonnait quand même zen, puis je trouvais que ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui était juste rationnel dans certains points, même si des fois, il allait vraiment, puis le gars, il a des bonnes capacités émotives quand même, là. C'est pas parce que c'est un médecin qui les a toutes perdues.
Non, c'est sûr.
Mais, tu sais, il était capable de garder quelque chose de très rationnel aussi dans son discours puis dans les débats, puis je trouvais ça intéressant. Moi, je trouvais que ça faisait du bien à mes oreilles, personnellement. Il était beaucoup trop détesté, honnêtement, entre autres à cause de, justement, son mode d'expression. Mais c'est sûr que, tu sais, il en a échappé des pas pires, là, la question.
Ouais, je dis 75$, là, ça l'a tué.
Il a donné une réponse.
Les braises de l'intolérance, ça a pas aidé. Son attitude sur la laïcité dans le débat avec François Legault, ça l'a pas aidé.
On va se donner un petit point rapide, là. Tu sais, la 75$ semaine, il a donné une réponse rationnelle de médecin que c'est possible. Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais faire? Non, mais est-ce que c'est possible? Ben, c'est un examen à l'école. La réponse, c'est oui. C'est juste que c'est vraiment dégueulasse pour ton système.
Ah, mais c'est une question. C'est la pire question que tu pouvais poser à quelqu'un.
Non, c'est une question au piège. Puis je te gage 10$ que la question était prête au début de l'élection.
Ah, probablement. Ça, c'était...
C'est mais... sûr que c'est sur le papier.
Je veux dire, puis l'autre affaire, l'austérité de Couillard, ça n'a pas été apprécié, mais je pense que ce qui a vraiment fâché les gens, c'est on fait 2-3 ans d'austérité comme ça, puis juste avant les élections comme ça, là, il commençait à pleuvoir les promesses, puis ça, là, je pense que les gens ont vraiment fait « Hey, non. »
Ouais, mais c'était écrit,
le côté regardes, timing, mais... le côté timing était vraiment, là, on sentait qu'il y avait eu une manipulation politique pour l'austérité. Parce que l'austérité, ramener l'équilibre budgétaire, je vais dire comme Gérald Filion avait dit, on n'aurait pas pu, à la place de couper 4-5% les deux premières années, couper zéro à l'autre, puis réinvestir dans le quatrième, on n'aurait pas pu juste couper 2-2-2, puis recommencer à la quatrième année, ça aurait été beaucoup moins difficile chez les plus pauvres.
Ben, c'est ça, c'est qu'en soi, ça, c'était déjà dans le... grosso modo, dans le plan économique. Tu peux retourner le lire dans le budget, puis même qu'ils ont réinvesti plus qu'ils pensaient, même dans les années avant la dernière année électorale.
Ouais, la troisième, ils avaient quand même réinvesti dans certaines affaires.
On s'entend, là, c'est une grosse lecture à faire, c'est parce que ouais, leurs pronostics, ils ont donné des encore meilleurs résultats que ce qu'ils pensaient. Fait qu'au final, tu sais, ils ont rendu qui disait qu'ils allaient rendre au niveau économique, puis quelqu'un qui lit le budget savait à quoi s'attendre. Il n'y a pas eu de surprise, puis il n'y a pas eu de tirage de cadeaux. Il y en a un, si tu regardes pas, mettons, la politique d'un point de vue économique, puis tu lis pas les budgets, tu sais, je comprends le monde, là, pour l'avoir lu, c'est dégueulasse.
J'ai lu une couple, puis pas tout, là, parce que c'est
le document principal fait genre, si je me trompe pas, il faisait 899 pages.
Ah, c'est ça, c'est oublié ça. T'sais, tu peux essayer de lire au complet, là, mais moi, je suis pas payé assez cher pour ça.
Imagine, moi, je l'ai fait totalement bénévolement avant la campagne.
Oh boy.
Ouais, okay. Je me suis fait dire, va donc coucher une couple de fois.
Fait que, non, mais
c'était prévu, puis on le savait, puis ça s'en venait, puis il n'y avait pas de surprise. Puis c'est qu'en fait, la surprise, c'est qu'il y a eu encore plus de réinvestissement que prévu parce que les résultats du parti au niveau économique ont été encore meilleurs que ce qu'il avait prévu. C'est con parce qu'au final, le fait qu'il y ait eu des meilleurs résultats les a encore plus plantés. Ouais.
Mais en même temps, c'est parce que après ça, ils se sont fait accuser de ça. Peut-être que c'était pas vrai, peut-être que c'est vrai, mais ils faisaient volontairement. De sous-estimer les résultats économiques. Là. Il disait on va faire 1,6% du PIB, puis tout le monde dans le privé faisait non, mais vous allez faire 2, là, arrêtez. Là. Puis il faisait 2, ah, regardons ça, on a fait 2 à place de 1,6, wouh! Je suis comme, ben là, tu peux dire que c'est prudent, ok, ça se justifie, mais tu peux aussi dire qu'il y a un petit côté, ah, on a dit qu'on allait faire 1.5, en fait, non, on a excédé nos objectifs. Mais c'est sûr, mais si tu donnes des objectifs que tu es sûr de passer. Mais bon, bref, tout ça pour en revenir que les années couillard, ben, sont pas si loin que ça. Pour Mme Anglade, il va vraiment falloir qu'il y ait une coupure assez nette. Et l'autre affaire que vous avez à gérer, ben là, c'est sûr qu'il y a QS qui vous mange un peu votre vote dans Montréal, mais je sais pas à quel point c'est si imposant que ça. Mais non négligeable quand même, le PQ va avoir un chef. Mm. En ce moment, le PQ a pas de chef, puis bon, on s'attend, puis je sais pas pour dénigrer mon propre parti, mais le dernier bon chef qu'on a eu, c'est Bernard Landry.
Ah, attends un peu, là. Attends.
Le dernier vrai bon chef, là, parce que tu sais, on s'entend.
Non.
Pauline Marois était correct, là, tu sais, mais je veux dire, c'était pas.
Je vais défendre Jean-François Lisée, OK?
OK. C'est correct. Lisée était juste. Il était très bon gestionnaire, mais écoute, puis je vais te dire la vérité là-dessus. Là, la
Lisée plateforme était aussi un bon communicateur.
La plateforme du PQ en 2018, là, on rinçait pas mal de monde. Notre plateforme était solide en maudit. Autant sur l'éducation, l'environnement, tout ça, la plateforme du PQ en 2018 était excellente. Lisée n'a pas été capable de vendre la plateforme pantoute. Puis cette valeur, parce qu'on avait une maudite bonne plateforme.
Mais votre plateforme était prudente, puis Lisée aussi était prudent.
Mais il n'était pas capable de vendre sa salade, parce qu'une plateforme prudente à ce moment-là, je trouvais ça logique avec Trump à côté, là, tu sais jamais qu'est-ce qui s'en vient.
Ouais. En effet, on va s'entendre là-dessus, puis tu sais, c'est parce que vous aviez plusieurs points quand même assez raisonnables dans votre plateforme, puis tu sais, je l'ai lu. Pour du monde, c'est bien niaiseux, là, mais mettre de la verdure sur le top des édifices, là, c'était quand même une bonne idée. Là.
Climatisation des CHSLD, l'université, le cégep gratuit dès le début, coupe de moitié des frais de l'université. Puis si on voyait que l'économie suivait, deuxième mandat, on sacrait tout ça gratuit. Tu sais, je veux dire, c'était prudent, mais c'était ambitieux pareil, tu sais. Je veux dire, c'est une couple de milliards par année, là.
Mais moi, je te l'ai dit dans un autre podcast, en plus, c'est que je trouve que Lisée n'a pas été apprécié à sa juste valeur, en soi, parce que moi, quand je l'ai vu au débat jeune, je pense que c'est le jour exactement avant le début de la campagne, j'étais comme « Oh my God,
ouais, c'est bon, t'avais l'impression qu'il allait être un gros challenger, finalement, pendant tout, là.
Oui, oh, et puis après ça, j'ai même pas vu ces pointages monter dans les sondages. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe là?
Mais non, c'est que les gens voulaient. Ben bon, ça, c'est mon diagnostic à deux scènes, là. Après ça, je suis pas politicologue. Mais les gens voulaient se débarrasser de Couillard, puis du PLQ. Puis là, ça se jouait entre. Est-ce qu'on prend Lisée ou est-ce qu'on prend Legault? Legault a réussi à mieux vendre sa plateforme, à mieux vendre. Puis il est allé chercher. Il est allé jouer dans les tales du PQ pas mal, l'immigration, le français, laïcité. Puis il est allé plus pesant. Tu le disais, il allait un peu plus à tâtons. Puis Legault, lui, il a pas hésité. Puis je pense que ça a payé. Puis Legault est plus sympathique que Lisée quand il parle, je trouve. Il a l'air plus naturel.
On sera pas d'accord là-dessus.
Mais tu sais, Lisée, tu l'entends parler, c'est un académique.
Oui, c'est un intellect, là. C'est clairement.
Intellectuel, mais. Tu sais, mettons là, l'exemple que je peux te donner. Tu parques Jean-François Lisée dans un Tim Horton. Tu parques François Legault dans un Tim Horton. Lequel qui est le plus intéressant? T'sais, lequel pour un citoyen, genre lambda, lequel qui a l'air le plus attachant? Clairement, ça va être François Legault. Là. Jean-François Lisée ne sera pas à sa place dans le Tim Horton. Il va juste pas être bon.
Ben, ça dépend pour qui je veux dire. Moi, personnellement, j'ai déjà dit pendant l'élection, j'aimerais tellement ça m'asseoir à une table avec Philippe Couillard et Jean-François Lisée qui font juste se lancer des références historiques un après l'autre. Là. Moi, personnellement, ça, je triperais. Là.
Mais c'est sûr, mais t'es pas, tu sais, je veux dire, t'es pas non plus l'électeur standard. Hein, t'sais. Et de ce côté-là, Lisée, tant qu'à moi, Lisée, c'est un bon ministre. C'est pas un premier ministre, c'est pas un chef de parti. Et là, on va avoir un chef au PQ pour la prochaine élection 2022. Fait que là, c'est beaucoup d'incertitudes en 2022 parce que là, t'as une CAQ vraiment forte en ce moment, mais ça peut changer. Mettons, il y a une deuxième vague, elle gère pas bien, ça va les plomber. Puis là, il y a l'incertitude économique en plus. PLQ, nouveau chef, Dominique Anglade, un héritage à traîner, question de l'identité qui est compliquée, tout ça. Bref, c'est pas une situation évidente. Mais en plus de ça, tu rajoutes le PQ avec un nouveau chef, donc possiblement un angle d'attaque que tu t'attends pas. Je veux dire, mettons que c'est Sylvain Gaudreau ou l'environnement, ben vous venez juste de vous faire enlever pas mal l'exclusivité du domaine, puis en plus il y a QS qui est là-dedans. Vous poignez PSPP, ben là, l'identité, vous n'aurez pas le choix de répondre de front sur des attaques sur le français et sur le modèle d'intégration. Prenez Frédéric Bastien, ben là c'est côté laïcité, mais c'est sûr que vous ne poignerez pas Bastien. Là. Je sais rien.
Bastien, il va plus à la CAQ d'après moi.
Ouais, des fois, je me pose la question qu'est-ce qui s'il aurait pas été mieux. Mais c'est un indépendantiste. Fait que la CAQ fit pas. Guy Nantel, là, ça, c'est compliqué, par contre. Nantel, vous ramassez contre Guy Nantel, là, ça sera pas évident, là, parce que Nantel, c'est un nationaliste. Mais c'est un nationaliste un peu nouveau genre, qui est plus consensuel, un petit peu. Il va chercher des points importants, mais il fait des compromis aussi. Puis il est connu. Ouais. Fait que là, déjà là, il partirait avec une solide longueur... il partirait avec une longueur d'avance sur Dominique Anglade, qui n'est pas connu avant tout. On la regarde dans les sondages. Je veux dire, c'est comme quand le sondage du PLQ avait sorti. Qui voteriez-vous? Dominique Anglade, Alexandre Cusson, ne sait pas ou autre 66%, puis nous autres, on était comme... c'est triste, là. C'est juste... Elle a à part de loin, je trouve. Pour gagner ben, 2022, je trouve qu'elle part de loin.
Elle n'a même pas eu l'occasion d'avoir un débat ouvert. Fait
en plus, là, ça, c'est... Tandis qu'au PLQ, tout le méchant des années Couillard-Charest n'est pas sorti. Ces idées-là sont pas sorties. Ben, tu sais, mais pas publiquement comme avec un débat. Publiquement. T'sais, à l'interne, je suis sûr que ça a pas sorti. À l'interne, ça a dû jaser fort en maudit.
Ah, ouais, ben, tu sais, mais
si pas. C'est comme nous autres, là, ça a jasé en maudit. Là,
on était une belle grosse quantité de monde au CG de Drummondville, je vais te dire. Il y avait du monde à la messe, comme on dit.
Congrès exceptionnel du PQ à Trois-Rivières, je pense. Là, il y avait du monde anti-péché, nous autres aussi, puis ça jase fort.
Ouais, mais c'est bien. C'est correct.
C'est bien, tu sais. C'est faut que le méchant sorte. Sauf que là, nous autres, en plus de tout ça, puis ça fait un peu, tu sais, ça a eu le temps de la pression a eu le temps de sortir à l'interne, mais ça va être moins explosif en avant. Mais là, nous autres, on va avoir la chance d'avoir des débats, tu sais, où ce que là, ça peut sortir en avant, tu sais, où ce que là, les gens vont pouvoir se faire une tête que ça va être, tu sais, ça va être positif tant qu'à moi, ces débats-là. Tandis que le PLQ, vous êtes privé, tu sais, malheureusement, Cusson vous a un peu enlevé ça. Quoique, est-ce que ça aurait été vraiment des débats ou est-ce que ça serait juste fait démolir tout le long, je sais pas.
Seul l'avenir nous le dira.
Ben, en fait, on le saura jamais, parce que Cusson ne fera jamais de débat contre Anglade, à moins qu'il vienne...
À moins qu'il fasse des lettres ouvertes, à moins qu'il envoie des commentaires, à moins
que... Peut-être, mais ça n'a pas l'air d'être son style. Ça n'a pas l'air d'être son style.
Non, en effet, il y a de l'air plus tranquille, mais la possibilité est encore là. Je veux dire, Cusson doit avoir une carte de membre du Parti libéral. Fait que s'il veut venir donner son grain de sel en tant qu'ex-candidat, go for it.
Ben, ça doit donner un peu de poids quand même, hein, quand arrive un candidat, ancien candidat à la chefferie, mais quoi, qu'il a tellement pas fait beaucoup que...
Mais ça t'attire toujours plus d'attention. C'est qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait fait?
Ouais, ben oui, lui, c'est sûr, il y a le facteur ici. Ici, ouais. Il avait resté dans le débat. Et ici, il était resté dans la course, qu'est-ce qui serait arrivé? Mais vous avez par contre un avantage, c'est qu'avec un couronnement comme ça, il n'y a pas d'incertitude. C'est elle la chef, puis vous allez suivre qu'est-ce qu'elle va vous dire. Puis on l'a vu un petit peu avec l'enquête sur Jacques Chagnon. Ça n'a pas brassé, là. C'était
un peu
ça. Je viens d'arriver, j'étais tout seul, puis vous allez faire ce que je vous dis de faire. Là.
Bonne chance de dire non à une femme quand elle demande une enquête comme celle-là.
En plus de tout ça, c'est ça. Tu vas dire non à ça, ta carrière, elle peut prendre le bord, c'est pas trop long. Puis en plus de ça, elle vient d'être nommée chef, genre, comme version couronnement. C'est pas le temps de dire non à ça, là. Mmh. Fait qu'elle elle a des cartes dans ses mains pour bien performer.
Mmh.
Puis moi, personnellement, si j'avais à faire une prédiction, ça va être entre le PQ et le PLQ de savoir qui va être l'opposition officielle. Mais tant qu'à moi, le gouvernement, ça va y rester caquiste.
Mmh. Il y a des bonnes chances, mais d'après moi, on va voir tranquillement. Puis ça va très tranquille. Puis on le sait, le Québec est généralement très tranquille. On a une révolution qui portait ce nom-là. Ça va être très tranquille, mais il va y avoir un mouvement avant les prochaines élections. Je pense pas qu'on va demeurer sur un genre de statu quo. Ça me surprendrait bien fort.
Ça me semble impossible que la CAQ, en ce moment, sont à quoi, 86 ou 87 sièges de prédiction. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, si ça arrive, je vais être... Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Vous avez des sièges à Montréal, mais genre Montréal, votre base, là, qui sont à risque. Tu sais, je veux dire... Waouh, moi, j'ai jamais vu ça, là. Puis c'est pas QS là, qui vous menace, là, c'est la CAQ. Je suis comme, oh boy!
Ouais, mais en même
temps. Qui commence à rentrer dans vos tales plus anglophones en plus, là.
Ouais, mais jusque maintenant, la CAQ jouait tout seul, là. Elle jouait contre des partis pas de chef.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça aussi qui va être intéressant de voir. La CAQ, ben, à part QS, là, mais QS ont deux chefs. Mais.
Non, en fait, ils ont deux porte-parole qu'on doit dire.
Ouais, c'est ça. Mais ils ont un chef à quelque part, on sait pas trop où c'est qui, mais. C'est qui? Il importe pas. Je pense que c'est eux autres qui ont le dernier mot. Je sais plus. C'est compliqué, là. Il faudrait demander à Jordan de nous faire un article là-dessus.
Fais attention de pas ressortir cette phrase-là, elle vous a fait mal pendant la campagne.
Ouais, ça. Yeah, c'est. Ça. Ah, c'est. Quelle belle façon de terminer le balado. Je suis content de t'avoir invité, Thierry, vraiment. Mais on va quand même faire une petite phrase de conclusion. Pour résumer, ceux qui ont peut-être oublié un petit peu, Dominique Anglade, chef couronné du PLQ, pas du PQ, mon Dieu. plusieurs lettres ouvertes, plusieurs présences médiatiques. Pronostic pour 2022, c'est compliqué. Des gros défis, autant sur l'aspect identitaire que l'aspect économique, environnemental, pour elle. Mais, positif, elle a beaucoup de cartes dans sa manche. Elle a des atouts qu'elle peut jouer. Intelligente comme elle est, c'est certain qu'elle va bien les jouer. Moi, j'ai pas de doute là-dessus que Mme Anglade va savoir jouer ses cartes. Bien placer ses pions, on pourrait dire. Puis, on connaît tout, puis moi, quelques personnes dans son équipe, puis elle est bien entourée. Fait que moi, je pense que ça pourrait être une belle conclusion, ça. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est merveilleux, puis je veux juste rappeler aux auditeurs que moi et Sam, on se lance des pointes, là, mais on s'aime bien fort.
Bah oui, écoute. c'est pas parce qu'ils votent fondamentalement pas du bon bord qu'il faut qu'on l'aime pas, ça. Je veux dire, come on! Fait que là-dessus, on va vous laisser. Merci d'avoir écouté le balado L'Agenda. Et n'oubliez pas d'aller vérifier notre page Facebook, le site web l'agenda.ca, pour aller lire la lettre ouverte de Dominique Anglade et l'article de Jordan sur le sujet. Passez une bonne journée.
Bonne journée à tous.